La science CQFD, Natacha Triou.
Comment s'y prend Spotify pour savoir que vous adoreriez ce morceau? Pourquoi les publicités ciblées sont-elles si bien ciblées? En d'autres mots, comment les géants du numérique sont-ils devenus les meilleurs profilers? D'un vulgaire like sur Facebook aux fonctions de géolocalisation sur notre téléphone, chaque jour, nous produisons une quantité immense de data, consciemment ou à notre insu. Des données qui sont données à un grand nombre d'entreprises, tant privées que publiques. Banques, santé, finances, publicité, autant de secteurs qui les collectionnent, les analysent pour construire des profils et pour mieux cerner les personnalités, les habitudes et les comportements. Bienvenue dans les sociétés du profilage. Profilage, vous reprendrez bien un petit cookie ? Philippe Hunemann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous venez de publier « Les sociétés du profilage, évaluer, optimiser, prédire » aux éditions Payot. Avec nous également Olivier Tesquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama et vous avez publié en 2021 « État d'urgence technologique » chez Premier Parallèle. Merci d'être avec nous en direct des studios de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. En complément des écoute, on vous propose de nous suivre sur Twitter, sur notre fil @sciencesqfd, où vous retrouverez toutes les sources qui ont nourri cette discussion. Alors jusqu'à 17h, nous discuterons donc du profilage, de données à caractère personnel, en quoi ça consiste, quelles sont ces dérives, et a-t-on une idée de ce que ce profilage fait à nos libertés de choix. On commence avec notre archive du jour de 2018, où comment la donnée numérique est devenue ce nouvel or noir du 21e siècle.
Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, auditionné par le Parlement européen. C'était mardi dernier, quelques semaines après l'affaire Cambridge Analytica, les données personnelles de 87 millions de comptes captés par la société ayant géré la communication de la campagne de Donald Trump. De quoi mettre en évidence la nécessité de mieux protéger les données personnelles que nous semons parfois à notre insu sur réseaux sociaux, applications et sites marchands.
À partir du moment où on a un smartphone, une application connectée, on peut difficilement y échapper.
Moi, ça ne me pose aucun problème, non. À ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a pas de données très confidentielles.
Du simple commerce aux géants du web devront donc les protéger d'éventuels piratages et garantir leur traçabilité en cas de vente. Des conditions que l'utilisateur devra connaître et accepter, d'où les nombreux messages nous priant ces jours-ci de valider de nouvelles conditions d'utilisation.
Voilà une archive du 25 mai 2018, date à laquelle le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles est entré en application. Philippe Hunemann, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, je pense que ça a été un moment important. Alors on rappelle deux choses, il rappelle l'affaire Cambridge Analytica, c'est-à-dire cette société d'analyse de données, hein, d'intelligence comme on dit, qui s'est procuré des millions de données personnelles de comptes Facebook et puis de contacts de comptes Facebook et qui à partir de là, puisqu'elle était payée par les promoteurs du Brexit en Angleterre, a réussi à identifier ou cibler des possibles électeurs du Brexit, mais des gens qui ne s'étaient pas déclarés comme votants pour le Brexit, et les a inondés de, alors pas seulement de fake news, mais aussi beaucoup de faux comptes, de faux comptes Facebook, hein, de bots, comme on dit, qui affichaient une préférence pour le Brexit, tout un tas d'arguments, etc. Et alors, on peut difficilement mesurer ça, mais il est clair qu'on soupçonne que ça jouait un très grand rôle dans la victoire finale du Brexit. Et puis l'autre chose, c'est effectivement, l'article est sur la mise en l'archive est sur la mise en application du règlement européen de protection des données. Et effectivement, c'est quand même une première prise de conscience de ce que le commerce la collecte, le commerce de données personnelles est quelque chose d'extrêmement profitable, quelque chose de généralisé, et il y avait quasiment aucun cadre juridique, et les gens donnaient des quantités phénoménales de données totalement à leur insu. Et donc, il n'est pas certain que ça ait complètement changé la donne, mais ça, effectivement, ça a un peu clarifié les choses et donné une petite prise aux citoyens sur la circulation des données qu'ils laissent ou qu'ils produisent.
Oui, mis en lumière en tout cas ce phénomène. Une réaction vous aussi, Olivier Tesquet, à ce qu'on vient d'entendre.
Moi, ce qui me frappe effectivement, qu'on entendait dans le commentaire et qui était repris par Philippe à l'instant, c'est le côté à notre insu. C'est-à-dire que le RGPD a aussi permis de prendre conscience de ça, qu'on était des producteurs un peu non-stop de données, plus ou moins personnelles. Hein. On entend une dame dans le reportage qui nous explique que finalement tout ça n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas vraiment de données si confidentielles, ce qui moi me terrifie, parce que dire ça, c'est, enfin, l'argument du j'ai rien à cacher, c'est reconnaître que finalement on n'aurait pas de droit au sanctuaire, on n'aurait pas de droit à l'intimité et on devrait déballer constamment tous ces secrets. Je pense qu'il y a un peu une confusion là-dedans entre ce qui serait illégal et ce qui relève de la stricte intimité où on décide de confier ce qu'on fait à quelqu'un ou de ne pas le confier à quelqu'un d'autre. Et donc ça a fait remonter comme ça à la surface toute cette économie, économie pour le grand public qui reste très très confidentielle. Il y a tout un tas d'acteurs de cette économie de la donnée qui reste sous la surface, mais parce qu'ils sont conçus pour rester sur la surface, ils n'ont pas pignon sur rue. Même une entreprise comme Cambridge Analytica n'avait pas vocation à se retrouver dans l'œil du public, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a les courtiers en données, par exemple, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et donc le RGPD a permis comme ça de prendre un peu conscience pour la première fois de l'ampleur du problème, tout en proposant un certain nombre de solutions qui sont probablement très insuffisantes, mais qui ont le mérite d'exister. C'est pas le cas partout.
On va repartir des bases. Hein. Là, on vient de parler de ces données qui nous semblent pas si confidentielles, de la collecte de data et de son business. Bah, nous laissons quotidiennement des traces numériques, mais quelles sont ces traces plus précisément, Olivier Tesquet?
Alors, il y a les traces auxquelles on pense spontanément, c'est-à-dire les traces qu'on sème nous-mêmes. On sait que quand on se géolocalise quelque part, quand on fait une recherche sur Google, quand on poste une photo sur un réseau social, bon, bah, tout ça, évidemment, ça, c'est horodaté, c'est stocké, ça va dans un data center quelque part, et puis c'est susceptible de nourrir des bases de données de plus en plus importantes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui nous échappent. Alors, soit parce qu'il y a des traces auxquelles on ne pense pas nécessairement, soit parce qu'il y a parfois des computation entre ces différentes traces. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas tout de suite le danger qu'il y aurait à croiser, par exemple, un endroit A où on s'est rendu, puis un endroit B, et à partir de cet itinéraire ou de la récurrence de cet itinéraire, commencer à déduire quelque chose. Or, c'est exactement comme ça que fonctionnent, par exemple, les courtiers en données. C'est-à-dire qu'ils prennent tous ces points de données très éparpillés qui font pas vraiment sens quand on les prend de manière isolée, mais qui, mis bout à bout, commencent à définir des habitudes de consommation, des modes de vie, des préférences, voire des choses beaucoup plus confidentielles. C'est-à-dire que si vous faites le chemin entre chez vous et une clinique une fois par semaine pendant 6 mois, peut-être que un organisme d'assurance va inférer quelque chose à partir de là, en fonction de la nature de la clinique ou en fonction, voilà, il y a plein de paramètres comme ça, et ces choses-là, malheureusement, elles nous échappent parce que le calcul qui est fait à partir de ces données, il n'est pas évident pour nous parce qu'il est caché.
Oui, on croit que ce n'est pas si confidentiel que ça, mais en fait, Philippe Unemann, sur justement la nature des données que nous laissons involontairement sur les réseaux.
Alors, je crois que il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on laisse tout le temps des traces. On prend une trottinette électrique, on passe un appel téléphonique, ça borne là. Donc il y a un point de distance. Oui, on fait des recherches GPS, on achète sur Amazon, on se pose dans un café, on s'inscrit sur le Wi-Fi. Mais ce qui est important, c'est d'une part le fait que on laisse beaucoup de traces et que c'est ça qui va constituer des données en fait. C'est-à-dire que il va y avoir une série gigantesque de traces pour tous les individus et donc ce qui permet des comparaisons. C'est-à-dire qu'une donnée, ça serait pas une donnée en fait. Si vous avez une donnée, vous en avez plusieurs et c'est ça qui fait qu'il y a des opérations de connaissance et des opérations de prédiction qui peuvent s'articuler sur ces données. Alors, y a trois choses qui me semblent importantes de souligner. La première, c'est qu'on parle souvent de données massives. Et effectivement, il y a une question qui d'ailleurs agite pas mal les historiens des sciences. Moi, je suis historien, philosophe des sciences, donc je pars de là, en fait, quand j'écris ce livre. Et il y a un historien des sciences suisse qui s'appelle Bruno Strasser, qui, quand on parlait il y a quelques années des données massives en biologie moléculaire, a dit avec raison, oui, mais Ça fait longtemps qu'il y a des données massives. Si vous allez, vous entrez dans un muséum d'histoire naturelle, vous avez des milliers de spécimens dans les tiroirs. C'est pas complètement nouveau. Bon, il disait ça de manière un peu provocante. C'est vrai que la multitude de données, c'est vieux. Ce qui est nouveau, je pense, c'est d'avoir des données dans un hyperespace. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si je peux prendre tous les Français, prendre leur taille et leur poids. J'ai donc deux dimensions, la taille et le poids. Je peux faire un graphique, hein, comme on faisait au lycée, taille et poids. Et puis je regarde, je mets un point par individu, puis je vais avoir plein de points. Et puis je peux voir assez facilement si la population française est plus ou moins au-dessus, plus ou moins en dessous de l'indice de masse corporelle idéal. Et puis je peux ensuite faire des morceaux, parce que si j'ai une information sur l'âge, ça rajoute une troisième dimension, etc. Si vous prenez maintenant un courtier en données, je crois que c'est Axiom, enfin, il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Ils ont autour de 1000 dimensions de données sur nous. C'est gigantesque. Et quand Olivier disait c'est pas évident les conclusions qu'on peut tirer, c'est juste pas transparent à un intellect humain. Il n'y a que des algorithmes, donc, qui font les opérations statistiques qui sont faisables pour détecter des choses significatives, on appelle parfois ça des patterns dans ces hyperespaces de données. Nous, quand on fait de la science, entre autres, ce qu'on appelait des régressions linéaires, c'est-à-dire que dans mon nuage de points avec la taille et le poids, je peux tracer une droite qui va être le plus proche de tous les points. Mais les opérations que font les algorithmes, c'est encore une fois, c'est pas transparent et ça pose un problème. C'est-à-dire que si c'est pas transparent, on peut pas vérifier ce qui est fait. On peut pas vérifier, donc on fait confiance, mais on n'a pas de prise là-dessus et c'est des problèmes, si vous voulez, de transparence, ce qu'on appelle parfois transparence épistémique, qui se pose depuis quelques semaines de manière très publique avec l'histoire de ChatGPT. Donc les gens se disent ah bah tiens c'est bizarre, des fois c'est faux. Oui mais on ne sait pas pourquoi des fois c'est vrai, des fois c'est faux ce qu'ils nous racontent. Et le troisième point qui est aussi ce que disait Olivier mais que je souligne, c'est que les données, alors il y a un terme que moi j'emploie beaucoup qui a un usage juridique et technique parfois qui est parfois plus précis. Mais je pense que c'est important, c'est l'idée que des données qui, on a l'impression qu'elles n'ont rien à voir, sont comparables. L'interopérabilité, ça s'appelle. Si vous faites, par exemple, un test génétique d'ancestralité, vous savez, avec les compagnies comme Ancestry ou 23andMe, et donc, vous allez, en fait, et je l'avais fait pour les besoins d'un article, c'était hyper instructif, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, on vous pose plein de questions, j'ai pas répondu à tout, mais peut-être 120 quoi, sur c'est quoi votre marque de café préférée, est-ce que vous aimez le hip-hop, est-ce que vous vous couchez plutôt vers 19h ou plutôt vers 2h du mat, il y en avait plein. Bon, alors évidemment il y a plein de données sur moi, bon après même si j'ai répondu qu'au tiers des questions, ça fait des données. Et ensuite eux ont des données qui sont des données génétiques, puisque je donne un échantillon de salive, on fait mon géome, puis alors après on fait cette opération dont on a pas mal parlé, y compris sur cette antenne, hein, qui est que on découpe votre génome en morceaux, enfin on découpe la représentation de votre génome en morceaux, puis on dit ce morceau-là, il ressemble plus aux gens qui sont d'Afrique subsaharienne, ce morceau-là, il ressemble plus aux gens qui sont d'Asie mineure, etc. Puis on fait une sorte de représentation de votre ancestralité. Mais une fois que moi j'ai fait le test sur 23andMe, que j'ai acheté le test, il y a aussi ces données qui sont juste des réponses à des questions sur ma vie. Et les deux vont être mis ensemble. Et à la fin, on va me dire d'ailleurs, je raconte à un moment dans le livre, mais on va me dire, oui, voilà, en tant que personne avec une grosse dominante d'Asie mineure, enfin arménienne dans votre génome, vous êtes très sensible au café, vous aimez je sais pas quelle musique. Mais ça, c'est parce que les gènes, et pour des raisons biologiques, hein, les gènes en question n'ont le plus souvent aucune expression phénotypique. Je veux dire, ils veulent rien dire, ils causent rien, pour dire vite. Mais par contre, moi, j'ai rempli le questionnaire, donc ça croise avec ça. Donc voilà, on dit, voilà, vous avez plein de possibles contacts de gens de votre groupe génétique, puis alors vous avez ça ensemble. Et donc, voilà. Donc, c'est ce croisement-là, l'interopérabilité.
Oui, ce croisement-là, d'ailleurs, vous êtes en train un peu de définir ce que c'est que le profilage numérique ou le cœur, hein, de cette pratique, c'est la donnée. On peut compléter ensemble, Olivier Tesquet. Hein, en quoi consiste le profilage numérique ?
Le profil, déjà, c'est un terme très paradoxal, parce que le profil, depuis l'émergence notamment des réseaux sociaux, c'est ce qu'on complète quand on s'inscrit sur une plateforme. Vous ouvrez un compte sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur une autre plateforme, un autre réseau social, vous allez remplir ce profil, vous allez faire construire ce profil à votre image. Vous allez mettre une photo que vous allez choisir un pseudonyme qui va être le pseudonyme que vous avez choisi, vous allez remplir une petite notice biographique, vous allez mettre, voilà, vous allez compléter ce qui est la représentation représentation, l'avatar numérique de votre personnalité. Et puis, il y a le profil, qui est le profil reconstitué derrière cette espèce de miroir sans teint que décrivait Philippe, qui est le profil et le profilage opéré, parfois d'ailleurs par les mêmes plateformes et par la légion d'acteurs plus ou moins invisibles de cette économie, et qui là vont avoir une sorte de calcul mathématique par rapport à ce profil que vous avez constitué, mais par rapport à tout un tas d'éléments qui sont des éléments qui nous sont arrachés quelque part, qui sont pas des choses qu'on donne de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce calcul dont on n'a pas la clé, les décisions dont on n'est pas capable de retracer comme ça le cheminement, ce sont des choses qui nous échappent complètement. Donc savoir pourquoi un algorithme va décider qu'on aime telle marque de café, ou qu'on écoute tel groupe, ou que sais-je encore, hein, peut y avoir plein d'autres exemples, ce sont des choses qui sont déduites, qui sont prédites à partir d'un certain nombre de nos comportements, et y compris parfois des choses qui dépassent très largement le cadre de ce profil sur lequel on aurait une maîtrise et une souveraineté finalement.
Oui, c'est ça, c'est qu'un profil, ça comprend en réalité plusieurs strates, et le profilage, c'est l'acte de recomposer nos profils.
Oui, on pourrait décrire ça comme ça. Moi, je pense que la meilleure définition, en tout cas la plus simple peut-être et la plus claire qu'on pourrait donner du profilage, c'est cette accumulation de données qui sont toujours plurielles, et je pense qu'effectivement c'est très important de le souligner, pour inférer un certain nombre de choses, pour ensuite guider, orienter nos conduites, nos choix. Après, la question étant de savoir jusqu'à quel point ça guide, à quel moment s'arrête le guidage, à quel moment commence la contrainte. Et là, on voit bien que la ligne, elle est parfois assez floue en fonction des individus qui sont soumis à ce type de dispositif.
Eh bien, cette ligne-là, on en parle dans un instant.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h16 sur France Culture, nous parlons de profilage numérique avec Philippe Huneman et Olivier Tesquet. Nous venons de voir en quoi consiste le profilage. Un profilé, c'est donc établir des profils en collectant des données, mais c'est aussi orienter, infléchir les comportements des individus. Une technique phare, c'est ce qu'on appelle le nudge. Philippe Huneman, qu'est-ce que c'est ? Vous l'évoquez régulièrement dans votre ouvrage.
Oui, alors, effectivement, je vais partir de ce qu'on disait à l'instant. Hein. Il y a une chose qui m'a retenu dans ce terme de profilage, et c'est ce que disait Olivier, c'est-à-dire que c'est, d'une part, c'est un terme vernaculaire, c'est un terme usuel, on remplit des profils, tout le monde sait ce que c'est, on a un profil Facebook, et d'autre part, effectivement, ça peut nommer cette opération de construction d'une base de prédiction sur des individus et des groupes d'individus. Construction algorithmique d'une base de prédiction sur des individus et des groupes d'individus. Et ça, c'est le sens qui me retient. Ça fait penser au sens, finalement, ça fait penser au sens du profileur dans les séries policières. Hein. C'est celui qui, à partir de tout un tas de données sur les 5 ou 6 crimes affreux qui ont eu lieu dans 12 États de l'Ouest américain, va reconstituer très exactement le profil du serial killer. Il vit chez sa mère, il consomme beaucoup de cornflakes, il écoute du métal, etc. Et il va vous dire à la fin, vous pouvez le trouver, il est au 13 rue des pains, enfin bon. Et il y a un autre sens, et je réponds comme ça à votre question, qui est le sens tout bête du profilage dans l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on vous profilez une pièce ou dans l'usinage, hein, vous établissez à partir d'une maquette le profil d'une pièce, le profil d'une aile d'avion, d'un rétroviseur, de toutes ces choses. Donc vous imposez une forme à quelque chose. Et je pense que le profilage fait ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica ? Eh ben, on a infléchi le désir de vote des électeurs vers ce qu'on voulait qu'ils votent, à savoir le Brexit. Alors c'est quoi le nudge ? Le nudge, c'est une théorie qui, c'est une opération, pardon, qui a été rendue célèbre par un livre qui s'appelait Nudge de deux intellectuels entre guillemets importants, Richard Thaler, qui était un économiste, qui a eu le prix d'Ig Nobel d'économie justement pour des travaux sur le comportement et pour quelque chose qui est important ici, qui est pour les contradictions entre nos désirs à long terme et nos actions basées sur des désirs à court terme. Et l'autre, qui est Cass Sunstein, qui est un juriste qui a beaucoup travaillé sur des questions comme par exemple les croyances au complot, et qui a été conseiller, si je me souviens bien, du gouvernement Blair à une époque, qui est aussi une machine à produire des livres, il doit en écrire genre 6 par an, enfin c'est, bref, il coécrit avec ChatGPT ou je sais pas. Et donc ce livre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, dans la théorie économique, libéral classique. Alors, je simplifie énormément. Je suis pas économiste, donc je pense qu'il n'y a pas d'économiste ici pour me frapper. Donc ça va. Mais elle vous dit que nous sommes des agents rationnels, c'est-à-dire que en gros, nous avons des préférences et nous agissons en choisissant ce que nous préférons. Et si on, par exemple, si on classe nos préférences et on donne une note à chacune, bah, ce que je préfère, c'est par exemple 8, c'est aller à la mer, 4, aller à la campagne, 2, aller au ski parce que je tombe, je me fais mal. Donc, ça, c'est mes préférences. Et donc, bah, qu'est-ce que je vais faire pour les vacances? Je vais aller à la mer puisque c'est 8. Et ça, c'est je suis rationnel. Si je suis pas rationnel, je préfère la mer. Puis je me retrouve à la montagne et je tombe. Et l'assumption, la présupposition de la théorie économique classique, parfois on dit microéconomie, hein, celle qui explique les prédits, les choix individuels, c'est ça, c'est que les agents rationnels maximisent quelque chose. Et le lieu où les agents rationnels, si tout va bien, s'il n'y a pas de concurrence faussée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oligopole par exemple, si tout le monde a la même information, c'est le marché, c'est-à-dire que moi je vends quelque chose et puis vous me l'achetez parce que c'est ce que vous préférez. Et le résultat est une sorte d'optimisation des désirs de tout le monde. Sauf que dans la vie, ça marche pas comme ça. Les gens sont pas très rationnels. Alors qu'est-ce que c'est le nudge? C'est un petit coup de pouce qui va compenser le fait que les gens sont irrationnels. C'est-à-dire par exemple, les gens, ils veulent tous vivre en bonne santé, longtemps, mais ils fument et ils mangent du Nutella. Ça, c'est pas bien. Évidemment, ils vont mourir plus tôt quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est l'exemple classique. Alors, on peut leur dire, fumer, c'est mauvais pour la santé. C'est une énorme blague, tout le monde le sait. Ça sert à rien. Donc, la conviction ne marche pas. On peut les contraindre financièrement. Mais ça, c'est embêtant, c'est pas du tout rationnel. Plus on fait ça, plus on est du côté non démocratique, etc. Alors, le nudge, c'est l'idée qu'on peut, en donnant un petit coup de pouce, qui est qu'on change l'architecture du choix. Techniquement, ça veut dire quoi? Je change le paquet de cigarettes, je mets la photo d'un bébé agonisant dessus. Et ça va agir sur leur système sensible. Et puis, ils vont dire, ah ben non, pas de cigarettes. Donc voilà, donc ça c'est ça le nudge, et le profil permet de faire ça.
L'exemple, autre exemple célèbre de nudge, hein, c'est l'image de la mouche au fond des urinoirs d'un aéroport pour donner envie aux hommes de viser la mouche et donc de ne pas uriner à côté. Mais Olivier Tesquet, est-ce que vous auriez aussi d'autres exemples, hein, de comment les réseaux sociaux peuvent nudger nos comportements?
Il y a plein de façons. C'est vrai que Cambridge Analytica était un très bon exemple, parce que ce soit sur le Brexit ou sur la campagne de Trump, ça se fait à travers... En fait, ça prend plein de formes. C'est-à-dire que Philippe mentionnait les faux comptes, les bots. Il y a eu des vraies tentatives d'influence, d'ingérence, organiser des faux événements, c'est-à-dire des fausses manifs. Parfois des fausses manifs de factions rivales au même moment, où vous vous retrouvez avec des affrontements. Et puis, il y avait aussi juste de l'incitation à voter. C'est-à-dire identifier des gens qui appartiennent à une catégorie de population ou une catégorie d'âge qui vote pas beaucoup, ou vote peu, ou vote dans des zones qui peuvent parfois être des zones de plus en plus petites. Hein. On parle pas du tout à l'échelle d'un État ni même d'une ville. Ça peut vraiment être le pâté de maison. On se dit, ce pâté de maison, ça vote pas beaucoup. Bon, bah, on va aller les inonder de publicités politiques faisant la promotion ou du Brexit ou de Donald Trump. Et puis, évidemment, il y a le nudge un peu quotidien à travers les recommandations algorithmiques. Je vais prendre un exemple très récent, notamment dans la consommation de l'information. Quand Elon Musk prend le contrôle de Twitter et décide, je crois que c'était il y a 2 semaines, 3 semaines, enfin, ma notion du temps avec Musk est parfois un peu étrange, parce qu'elle est étrange pour lui aussi, il change le mode d'affichage par défaut des tweets, où vous n'avez plus un affichage chronologique des personnes que vous suivez, mais vous avez les contenus qui sont pour vous. C'est-à-dire les contenus qui vous sont recommandés, exactement comme quand Spotify vous propose des suggestions d'artistes, de playlists, etc. L'effet que ça a, effet mécanique, hein, c'est qu'il y a des informations qui vont être plus visibles que d'autres. Selon quels critères? On n'en a pas la moindre idée. C'est-à-dire que comment fonctionne cet algorithme de recommandation selon lequel... Musk n'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on commence quand même à avoir quelques indices. À défaut de comprendre comment fonctionne l'algorithme, on commence à comprendre comment fonctionne l'idéologie d'Elon Musk. Donc ça offre quelques... on va dire un petit aperçu de sa matrice politique. Mais une autre forme de nudge, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est les contenus, et ce terme de contenu qui est assez plastique, qui englobe plein de choses, qui nous sont proposés selon des critères qui sont l'immense majorité du temps des critères complètement discrétionnaires.
Justement, je voulais savoir d'un point de vue techno, hein, par quels moyens technologiques algorithmiques ce profilage se performe et se propage dans nos vies et au quotidien.
Alors, ce qui est très piégeux, mais je pense que c'est important de le préciser, c'est que l'algorithmie n'est pas toujours mobilisée sur ce genre de choses. C'est-à-dire que quand Twitter, sous Musk, décide de mettre en avant tel ou tel contenu, c'est pas nécessairement le résultat d'un calcul mathématique, savant, etc. Il peut y avoir des intérêts bassement financiers ou idéologiques, parce que quelqu'un a mis un billet sur la table pour dire « je veux que mon contenu soit mis en avant », et à ce moment-là, alors on nous fait passer ça, évidemment, c'est la... la grande magie, le grand tour de prestidigitation du numérique, où on va nous faire passer ça pour le choix du peuple, la dictature de la popularité, où on nous dit, bah voilà, bah c'est le contenu le plus populaire, c'est ce qui marche le mieux, donc c'est ça qui est mis en avant. Alors qu'en fait, derrière, parfois, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes beaucoup plus simples, hein, en définitive.
Dictature de la popularité. Ça me fait penser, Philippe Puneman, vous écrivez dans votre essai, en 1975, Foucault traçait les contours des sociétés de la discipline, en 1990, Deleuze, ceux des sociétés de contrôle. Avec l'ère numérique, nous assistons à l'avènement des sociétés du profilage. Les sociétés du profilage, c'est un nouveau régime de pouvoir ?
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, j'essaye de continuer ce que Foucault avait essayé de montrer, c'est-à-dire un certain nouage entre des techniques, alors en particulier des techniques de discipline, une manière de gouverner les populations et un certain type de socialité. Alors avec des paradigmes qui sont, quand vous lisez Surveiller et punir, hein, l'armée, l'hôpital, l'école, la prison. Hein. Et il me semble que la question est moins la question de savoir qui fait quoi, qui est où, etc., que la question de à la fois prédire ce qui va arriver et éventuellement infléchir ce qui va arriver et infléchir de manière individuelle. C'est-à-dire que quand Foucault parle de surveillance, il faut penser l'armée avant. De discipline, pardon, mais la discipline est un outil de surveillance. L'école avant, c'était un endroit avec des gamins qui couraient dans tous les sens. Là, ils sont assis tous derrière des bancs. L'armée, c'était un endroit où il n'y avait pas vraiment d'ordre, etc. Puis les armées napoléoniennes, c'est très ordonné, c'est des gens alignés qui marchent au pas, etc. Et donc, c'est cette idée de gouvernementalité par l'homogénéisation. Et c'est pour ça qu'il y a un des concepts fondamentaux qui est le concept de norme, c'est-à-dire que on pose une norme et on homogénéise en ramenant tout le monde d'un certain côté de la norme. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute la problématique de Foucault va être une problématique de la norme et de la transgression de la norme, d'où le rôle fondamental de la prison dans cette histoire. Ici, on n'est plus du tout là-dedans. On est beaucoup moins dans la question de la norme et de la transgression de la norme que dans la question de la prédiction des comportement individuel et la partition des populations en types, alors parfois sur les réseaux sociaux ça s'appelle des communautés d'ailleurs, qui vont partager des choses, qui vont éventuellement imiter plutôt que suivre ce qu'on appelle des influenceurs, qui est le pivot par lequel un certain type de message, en particulier publicitaire, ou un certain type d'arguments de vente peuvent passer. Et à partir de là, effectivement, ce profilage qui est au départ une technique algorithmique qui repose aussi sur des bases économiques spécifiques, va permettre un certain type de gouvernementalité et engendrer un type de socialité. Alors, on a beaucoup parlé, j'en parle à peine, mais c'est qui est la socialité des réseaux sociaux et les différents types de rôles qui peuvent être endossés dans cette socialité.
Comment vous, Olivier Tesquet, vous analysez l'usage des technos qui servent cette ambition de collecte, de traitement et d'exploitation des données pour profiler les personnes et pour prédire leur comportement?
Alors déjà, je rejoins Philippe, je pense, sur la nécessité de tracer une sorte de chronologie comme ça, donc avec les sociétés disciplinaires de Foucault, les sociétés de contrôle telles que décrites par Deleuze, et surtout cet effet de gazéification qu'on a. C'est-à-dire que je me souviens, quand Deleuze écrit son post-scriptum sur les sociétés de contrôle en 1990, il dit que sous le régime défini par Foucault, on ne cessait jamais de recommencer les choses en passant d'une institution à une autre. Dans les sociétés de contrôle, on n'en finit jamais avec rien. On est dans une sorte de continuité comme ça, qui s'étire, et notamment avec l'éruption du monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, non seulement on est dans ce continuum qui ne cesse de s'étirer, on voit que cette collecte de données, elle déborde dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie intime, le jour, la nuit, le temps travaillé, le temps chômé, enfin voilà, il y a vraiment à tous les niveaux et avec plein d'intersections, mais on a à la fois la dimension du profilage qui est la dimension de prédiction, en tout cas c'est comme ça que je le comprends dans le propos de Philippe, et puis on a aussi une dimension d'invisibilisation avec, alors c'est marrant parce qu'on a deux approches assez complémentaires, Philippe parle de la société du profilage, moi je parle de la société de la trace, et la trace c'est l'invisibilisation. anonymisation. C'est-à-dire que on a des dispositifs qui ne se présentent pas comme des dispositifs de collecte de données ou des dispositifs de contrôle ou des dispositifs de surveillance, mais qui viennent nourrir comme ça une machine jamais rassasiée de ce que Shoshana Zuboff, qui a écrit ce livre désormais assez fameux sur le capitalisme de surveillance, l'exploitation de notre surplus cognitif, c'est-à-dire que la moindre de nos expériences vécues devient un signal informatique qui a une valeur. Qui n'a pas beaucoup de valeur pour nous, mais qui en a beaucoup pour les entreprises qui l'utilisent.
C'est ça, la spécificité du profilage de notre époque, c'est que nos sociétés de profilage, les outils et techno de collecte et traitement de données sont devenus invisibles. Comment réguler cette pratique? On tentera de répondre à cette question après cette pause musicale. Say, where did I see the sky? In the sun, maybe a misfit, head to toe. It's recognized at dawn. He ain't got no shoes. Who's at dawn? And everybody says he alright. And everybody says, what's he like? Everybody says, you look funny. That's that Montgomery clip money. I see a car smashed at night. Cut the applause and dim the light. Money's face is broken on a wheel. Is he alive? Can he still feel? And everybody says he alright. Everybody says shine a light. Everybody says it's not funny. That's Montgomery Clifton. The Clash, The Right Profile à 16h31 sur France Culture, car nous parlons de profil et de profilage numérique. Aux côtés de Philippe Huneman, philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS et l'auteur des Sociétés du Profilage aux éditions Payot. Et aux côtés d'Olivier Tesquet, journaliste à la cellule Enquête de Télérama, auteur de l'état d'urgence technologique chez Premier Parallèle. Alors nous venons de parler des méthodes, de cette pratique, de ce que le profilage fait à notre liberté de choix. Une des technologies phares basée sur l'IA qui sert au profilage de plus en plus, c'est la reconnaissance faciale. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour.
Alors pour comprendre comment fonctionne cette technologie et ses applications possibles, vous êtes allé à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université.
Et oui, dans l'optique du profilage des individus, l'analyse et la reconnaissance des expressions faciales gagnent en performance. Kevin Bailly travaille, lui, sur la reconnaissance des émotions, une technique basée sur du machine learning qui suit une échelle de traitement selon les déformations morphologiques du visage qu'on associe à des émotions types. Si la technique se développe ici dans une intention guidée par la seule innovation, les applications sont déjà convoitées à des fins marketing ou de santé et la question de la surveillance vidéo se profile aussi, même si la recherche n'est pas encore aboutie.
Quand on souhaite analyser un visage, il y a plusieurs étapes à respecter. La première des étapes, ça va être déjà de détecter un visage dans une image. Et donc ça, c'est un problème, on va pas dire qui est résolu, parce qu'on peut toujours améliorer les performances, mais vous l'avez bien vu dans vos appareils photo, dans pas mal d'objets du quotidien, maintenant, il y a une détection automatique du visage. Une fois qu'on a ça, on a fait un premier pas. Et ensuite, on peut soit donner directement ce visage détecté à la machine pour qu'elle analyse et qu'elle ressorte soit l'identité de la personne, soit l'expression, suivant ce qui nous intéresse. Soit, et c'est souvent le cas, on va faire une étape intermédiaire de localisation de points caractéristiques qui va nous permettre d'affiner un peu la localisation du visage parce que les systèmes de détection sont un peu grossiers, il peut y avoir des décalages, ça va être la fenêtre sera plus ou moins grande, etc. Donc pour améliorer ça, en général, on s'appuie sur une localisation des points caractéristiques. Et puis là, encore une fois, on peut faire le choix soit d'extraire des descripteurs spécifiques sur le visage, qui sont en lien avec la texture ou avec la géométrie du visage, soit donner directement, et c'est la tendance du moment, directement l'image du visage, et c'est à la machine ensuite d'extraire les informations pertinentes, d'apprendre quelles sont les caractéristiques intéressantes. Moi, plus particulièrement, je suis dans une équipe qui s'appelle PIROS, Perception, Interaction et Robotique Sociale. Et donc, le thème qui m'intéresse le plus ici, c'est la reconnaissance des expressions faciales.
C'est intéressant cette salle, c'est avec ces filets. C'est
une salle qui était spécialisée à l'époque pour analyser le mouvement des gens.
Ah ouais, donc en fait, il y a des caméras dans chaque coin en haut et un filet qui nous encapsule.
Voilà. À l'époque, c'était pour être capable de suivre le mouvement en temps réel de personnes qui interagissaient. Là, je suis moins sûr en voyant le robot qui est dans un coin et qui a des roues, qui ressemble moins aux gestes humains.
Concrètement, comment ça se passe quand on veut identifier une expression ou une émotion? Quels sont les déterminants physiques sur un visage? Ça va être un locus particulier, ça va être... Est-ce qu'il y a des caractéristiques très stéréotypées?
Alors, il peut y avoir des caractéristiques très stéréotypées. En réalité, les approches qui nous permettent actuellement de déterminer si la personne est joyeuse, triste, etc., c'est plutôt des approches de machine learning complètement supervisées. C'est-à-dire qu'on va donner à la machine un visage, on va lui demander de prédire le label correspondant et donc on va l'entraîner à associer une image, un label.
Dans ce laboratoire, il y a beaucoup de théories, mais il y a aussi des expérimentations avec des plateformes techniques.
Il y a énormément de robots, de drones, ce genre de choses qui sont expérimentés directement déjà en laboratoire avant de sortir de laboratoire. Il y a aussi, même sur l'analyse faciale, ce genre de choses, il peut y avoir des manips qui sont faites pour étudier les interactions sociales, ce genre de choses. Donc là, on va filmer des personnes en train de réaliser une tâche et puis on va regarder leur visage, leurs gestes, etc., comment ils ont fait pour essayer de voir comment ils se synchronisent.
Donc on est au sous-sol, hein, et... Ah oui, c'est immense.
Voilà, ouais, donc c'est assez grand. C'est pour pouvoir, par exemple, faire voler des drones. Il y a pas mal de manipulations aussi pour tout ce qui est robotique chirurgicale, être capable de simuler des opérations, ce genre de choses. Alors là, par exemple, on est devant des visages et puis on voit qu'il y a plusieurs manières de caractériser les expressions faciales. L'intention ici, c'était surtout de montrer que l'algorithme était capable de suivre assez fidèlement la position des points, même lorsque la personne faisait une grimace, même lorsque le visage pouvait être un petit peu altéré. Là, il est rasé que la moitié de son
visage. Il a rasé la moitié de son visage. C'est un visage d'homme, on suppose. Et donc, les points sont placés donc aux endroits...
À des endroits clés.
Stratégiques. Ouais,
exactement. C'est généralement des endroits où il y a le plus d'informations. Donc le contour des yeux, exactement, les sourcils, le tour de la bouche, puisque c'est en général, c'est là qu'on va observer vraiment l'expression faciale, exactement.
En fait, je me dis ce qui est intéressant avec ce que vous développez dans la reconnaissance des émotions, ça peut être utilisé aussi par des acteurs qui ont besoin d'avoir cette information-là pour... je ne sais pas, dans un supermarché, voir la satisfaction d'un client ou...
Les usages potentiels, ils sont vraiment multiples. Hein. Il peut y avoir, ça va de, effectivement, ça peut être l'analyse du consommateur, savoir est-ce qu'il est satisfait, pas satisfait. Alors, soit parce qu'il est en train de regarder un contenu devant sa télé, soit parce qu'il est en train de faire un acte d'achat en magasin. Mais il y a d'autres applications. Le passage aux frontières dans les aéroports, de la même manière qu'on le fait avec un douanier, là, il y a des systèmes maintenant automatiques. Certainement, beaucoup sont déjà passés par là. On va scanner l'image qui est sur notre passeport. Et puis, à partir de l'image qui est sur le passeport, on rentre dans un portique. Et ensuite, il y a une caméra qui va analyser notre visage et puis qui va faire juste la mise en correspondance entre le visage qui voit et celui qui était sur le passeport. Et donc... Et va nous laisser passer ou pas en fonction de la décision de l'algorithme.
Mais est-ce que ça fonctionne aussi pour les visages en mouvement? Donc la vidéosurveillance, vous parlez d'aéroport.
Alors effectivement, dans les faits, pour ce qui est après de la surveillance en continu, être capable, à partir d'une caméra de vidéosurveillance qui n'a pas forcément un bon angle, qui n'a pas forcément une bonne résolution. Dans une masse de population, avec des conditions d'éclairage qui peuvent changer de jour, de nuit, etc. Les résultats sont beaucoup moins bons. C'est bien évidemment dégradé. Après, on peut être capable de suivre la personne, ne serait-ce qu'avec ses habits, sa démarche, etc. Et puis, essayer de trouver des angles de vue, etc., où le visage est plutôt bon et pratiquer à ce moment-là la reconnaissance dans ces situations-là. Après, c'est sûr que ces algorithmes ne sont pas parfaits. À ma connaissance, on n'est pas capable de suivre de manière très fiable une personne dans un réseau de caméras aussi longtemps qu'on veut et puis l'identifier à la volée, un peu comme on pourrait voir dans certains films de science-fiction.
Merci Céline Lozen pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre d'Olivier Tesquet ?
Beaucoup de choses à dire sur la reconnaissance des émotions. Il y a déjà beaucoup de choses à dire sur la reconnaissance faciale qui aujourd'hui est effectivement un peu... Mais je pense que la ligne jaune pour beaucoup de gens, et quand je vois par exemple que le gouvernement a reculé sur l'idée de déployer la reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques, ils avaient peut-être un peu sous-estimé le niveau de réticence qu'il pouvait y avoir, parce qu'en fait on a été dépouillé avec notre consentement de tout un tas de données au fil des années, mais le visage a ce caractère un peu plus difficile à spolier. On est plus réticent à donner, c'est plus une partie de nous, quoi. C'est vraiment le visage nous appartient, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est ce qui fait notre singularité. Et là-dedans, la reconnaissance des émotions, c'est un peu le... Alors bon, ça peut-être sonner un peu radical de le dire comme ça, mais c'est un peu le cousin dégénéré de la reconnaissance faciale, en ce sens où ça ressuscite tout un tas de pseudo-sciences assez problématiques, on va dire, pour rester pudique, du 19e siècle. Je pense à la physiognomonie, je pense à la phrénologie, toutes ces pseudo-sciences selon lesquelles on allait être capable, par exemple, de déterminer un type criminel en fonction de l'analyse des traits du visage. On voit assez bien comment, couplé à des politiques un peu darwinistes, etc., où on peut arriver à des choses eugénistes et à des fonctionnements assez racistes, assez clairement racistes. Par ailleurs, il y a un gros problème avec la reconnaissance des émotions, c'est que l'émotion, elle est contextuelle. Déjà, la reconnaissance faciale, c'est compliqué parce qu'on est figé comme ça un peu dans notre identité, mais l'émotion, c'est-à-dire que si là, je vous fais un grand sourire et qu'ensuite je tire la tronche, une technologie ne va pas être capable de saisir ce glissement, cette perception, cet enchaînement d'émotions. Il y a un effet bien connu qui s'appelle l'effet Kuleshov. Si vous prenez trois images successives, qui sont trois images identiques, enfin trois images différentes plutôt, et qu'ensuite vous avez l'expression d'un homme impassible, suivant que vous avez mis une personne agonisant ou un plat de pâtes, la réaction de cet homme au visage impassible signifiera pas la même chose. Et ça, la machine, aujourd'hui, n'est pas capable de le comprendre. Donc aujourd'hui, il y a une grande prudence vis-à-vis de la reconnaissance des émotions. Je remarque d'ailleurs que dans les contours de la future législation européenne sur l'intelligence artificielle, ça reste un peu un angle mort, c'est-à-dire on veut pas du crédit social à la chinoise, mais sur la reconnaissance des émotions, c'est pas très clair. Or, je pense que ça devrait être clairement indiqué comme une ligne jaune, d'autant plus qu'il y a, enfin une ligne rouge même, d'autant plus qu'il y a déjà des prospections industrielles et commerciales. Hein. Certaines entreprises, par exemple une petite start-up messine qui avait démarché la mairie de Nice, parce qu'on sait que Christian Estrosi est un grand consommateur de ce type de technologie, pour détecter les émotions dans le tramway. Donc on voit très bien les utilisations sécuritaires potentiellement, alors il peut y avoir beaucoup d'autres utilisations qui elles sont plus vertueuses, hein. En termes de santé, par exemple, on peut imaginer que ça peut servir à quelque chose pour communiquer avec des gens pour qui la verbalisation des choses est plus compliquée. Je pense aux patients autistes ou des situations de ce type-là. Mais on ne peut pas mettre de côté ces utilisations, par exemple, sécuritaires, qui montrent bien qu'on n'est pas face à des technologies neutres.
Et oui, bien en effet, vous évoquez des applications vertueuses en santé. Le service d'opnomologie de la Pitié-Salpêtrière a utilisé justement la reconnaissance faciale et la reconnaissance des expressions, hein, pour analyser les douleurs chez des personnes qui étaient incapables de pouvoir communiquer ça. Mais donc, ça veut dire, est-ce qu'on pourrait imaginer à des fins vertueuses la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions? Votre réaction, Philippe Neumann, avec tout ce qu'on vient de dire, par rapport à tout ce qu'on vient de dire.
Alors, oui, en effet, j'aurais pas mal de réaction qui est des utilisations vertueuses. En effet, je comprends bien la motivation. En théorie, c'est pas du tout impossible. Je me rappelle un article, je crois que c'était dans Wired, et le journaliste avait, c'était il y a quelques années, hein, testé ses lunettes qui utilisent des logiciels de reconnaissance des émotions. Et effectivement, c'est destiné à des gens sur le spectre autistique qui ne, entre guillemets, lisent pas les émotions sur le visage des autres, et ça devrait leur expliquer ce que pensent les autres. Mais c'est très drôle parce que le journaliste parle avec quelqu'un, il met les lunettes. Alors d'abord, il parle avec quelqu'un, il a une certaine appréhension de la situation, puis ensuite il met les lunettes et il a l'impression vraiment que la personne lui plaît beaucoup. Et en fait, les émotions, c'est la personne en face qui se dit « mais qu'est-ce qu'il m'emmerde, quel foutu con ?» Enfin bon. Donc, autrement dit, le logiciel, il est complètement... Alors, est-ce que c'est le gars qui ne lit pas les émotions? Est-ce que c'est le logiciel qui se plante? Mais ce qui est important, là, à mon avis, il y a plusieurs choses. D'une part, la reconnaissance des émotions, c'est quelque chose qui suppose une théorie des émotions. Alors, il y a dans la grande quantité de livres qui ont été écrits sur ces questions-là, il y a un beau livre de Kate Crawford qui s'appelle « Traduit le contre-atlas de l'intelligence artificielle », où elle a tout un chapitre où elle parle des théories, en particulier d'Ekman, qui est ce gars qui pensait qu'il y avait 5 émotions fondamentales totalement transculturelles dans toute l'humanité. La reconnaissance des émotions, elle est basée sur l'idée que un visage, il va avoir des émotions typiques, des expressions typiques qui renvoient à des émotions fondamentales, lesquelles d'ailleurs s'inscrivent dans la phylogénèse des primates. Et ces expressions faciales, vous pouvez les réduire à des petits points, hein, c'est quelque chose de discret, le sourcil levé de 1 mm, la bouche baissée de 2 mm. Le problème ici, c'est que pour faire marcher le logiciel de reconnaissance faciale, il faut entraîner le logiciel. C'est-à-dire qu'il faut lui montrer beaucoup, beaucoup d'images en les labellisant, en disant ça c'est quelqu'un en colère, ça c'est quelqu'un de pas en colère, etc. Et alors là, si votre théorie elle est fausse, c'est-à-dire que si vous croyez que l'expression d'émotion c'est un truc universel, que c'est comme ça dans toutes les cultures, alors qu'en fait c'est pas le cas, ça va se planter tout le temps. Ce qui m'amène à un point assez important, qui est souvent dans ces questions-là, on se dit... on a une technologie, est-ce qu'il faut l'employer ou pas? Ça risque de faire du mal à des gens si on l'emploie. Typiquement, la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions, c'est dans pas mal de domaines, mais là, on parle de ça. Or, à mon avis, c'est une question mal posée, parce que la question suppose que ça marche. Or, en fait, dans beaucoup de cas, en particulier ici, ça marche pas très bien. Il y a tout un tas d'industriels qui ont intérêt à vous dire que ça marche, ça s'appelle l'économie de la promesse, c'est connu par les sociologues, mais en fait, ça ne marche pas. Donc la question utilisée ou pas ne doit pas se poser.
Ce qu'on entendait aussi en finale de ce reportage. Olivier Tesquin, vous êtes un journaliste d'enquête, votre spécialité c'est les usages des technologies numériques en lien avec la surveillance et les dérives sociales associées. Drones, reconnaissance faciale, technologie de traçage, loi sécurité globale, ça fait 5 ans que nous avons passé plus de temps sous le régime de l'état d'urgence que dans celui du droit commun. Selon vous, comment a progressé la traçabilité de nos données et nos sociétés de profilage ?
Alors déjà, effectivement, il faut rappeler qu'on vit dans une société, particulièrement en France depuis les attentats de 2015, où on a une politique sécuritaire, bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein. On va dire que ça fait quand même 35 ans, voire un peu plus, qu'en France, on vote des lois sécuritaires à une cadence assez industrielle. Et avec les développements technologiques, la question n'est pas de savoir si oui ou non on devrait déployer une technologie, mais quand et comment on va le faire. On a eu un exemple assez probant avec la loi sécurité globale, où il y avait les drones à l'intérieur, drones qui étaient déjà utilisés par les forces de police et de gendarmerie, ce qui avait poussé le Conseil d'État à taper sur les doigts de l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallement, à plusieurs reprises. La CNIL avait dit que c'était pas possible. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article de la loi sécurité globale, qui est revenu par la fenêtre dans un autre texte sur la responsabilité pénale. Et aujourd'hui, les drones seront utilisés demain pour les Jeux Olympiques, puisqu'on nous dit qu'on va faire de la vidéosurveillance automatisée, intelligente, on peut lui donner plusieurs noms, algorithmique, où les drones joueront un rôle, parce qu'on pourra embarquer des caméras capables de faire cette vidéosurveillance automatisée. Donc on voit la volonté de rajouter comme ça des briques successives, avec vraiment cette idée assez fondamentale et assez dangereuse, parce que pour le coup on pourrait considérer que c'est un déni de démocratie, où les usages précèdent assez largement le droit, c'est-à-dire que les drones étaient déjà utilisés avant qu'on les vote, la vidéosurveillance automatisée, elle est déjà utilisée dans tout un tas de villes de France. Il y a tout un tas de villes, de Suresnes à Reims, en passant par Marseille ou Nîmes, où la vidéosurveillance automatisée est déployée, parfois d'ailleurs à l'insu de la population et des forces politiques d'opposition qui ne sont pas au courant de ça, parce que c'est sous le régime de l'expérimentation, que depuis le RGPD, qui est un beau texte et une avancée, même s'il n'est pas parfait, mais il y a quand même un petit cadeau piégé dans le RGPD, qui est qu'avant, il fallait une autorisation préalable de la CNIL, c'est-à-dire que le gendarme de la vie privée devait vous dire, voilà, votre expérimentation, votre technologie, on vous dit, oui, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, il y a un principe de responsabilité qui fait que les mairies, par exemple, les collectivités locales, déploient et ensuite la CNIL contrôle. Comme on sait que la CNIL n'a pas énormément de moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens humains, elle n'a pas les moyens d'être partout, elle n'a pas les moyens de tout contrôler, et donc elle intervient en aval, et on a du coup des expérimentations qui fleurissent comme ça sur un spectre intermédiaire. On va dire, on n'est pas dans la reconnaissance faciale, parce que pour le coup il y a eu des vraies interdictions dans les lycées à Nice et à Marseille, la justice a dit c'est pas possible, donc ça c'est la ligne rouge. Mais dans toute cette zone grise où le droit est une matière soumise à appréciation, on va dire, il y a déjà des expérimentations qui sont menées. Donc quand on a ce projet de loi sur les Jeux Olympiques qui arrive, là, qui vient d'être voté par le Sénat et qui va arriver à l'Assemblée en lecture simple, donc en plus, une fois que ce sera voté à l'Assemblée, ce sera plié, la question et de faire rentrer dans le droit des choses qui, jusqu'à présent, étaient utilisées, mais n'étaient pas dans le droit. Et ça, pour le coup, c'est un problème, et ça devient malheureusement un motif assez récurrent quand on parle du déploiement de technologies, et particulièrement de technologies sécuritaires.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h49 sur France Culture, nous parlons de profilage numérique avec Philippe Huneman et Olivier Tesquet. Nous arrivons à la fin de cette émission et nous posons les questions politiques que ces pratiques forcément nous obligent à poser. Selon vous, Philippe Huneman, est-ce que ces technologies pourraient servir à la mise en place de ce qu'on appelle une algocratie, hein ? Peut-être rappeler ce que ça signifie, algocratie, qui n'est pas facile à dire.
Alors, algocratie, c'est une domination ou un gouvernement par les algorithmes. Il y a un livre qui vient de sortir d'ailleurs de Arthur Grimont-Pont qui a ce titre, qui vient de sortir. Donc en fait, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est là-dessus. Et je pense que jusqu'à un certain point, c'est déjà le cas au sens où il y a un certain nombre de techniques algorithmiques qui entraînent un certain nombre d'effets dans la vie des gens, dans la vie des communautés. C'est pas centralisé, il n'y a pas un grand commandement qui décide de telle et telle organisation. Ceci étant, je vois deux choses. La première, c'est la tendance à déléguer à des algorithmes des manières, par exemple, d'influencer les gens ou d'agir sur le comportement des gens. On a parlé du nudge, et si vous voulez, ici, la dystopie, ce serait de se dire on a voilà des algorithmes qui, donc, une fois qu'on a profilé les gens, les exposent à des environnements dans lesquels leur conduite va, par exemple, être mieux d'une certaine manière, souvent au niveau de l'environnement. Ils vont être plus écologiques, puisque souvent, ça sert vraiment, entre guillemets, à la bonne cause, le nudge. Et puis, si on laisse les algorithmes, ils s'entraînent eux-mêmes et ils s'améliorent eux-mêmes. Donc, on peut imaginer que l'algorithme se dit, ah bah les gens, là, ils arrosent moins leur jardin, on va les exposer à d'autres informations, d'autres contenus, comme ça, ils vont plus du tout consommer d'eau et ne plus arroser leur jardin. Et en fait, on ne maîtriserait plus ça. Alors ça, c'est une dystopie, c'est pas complètement impossible. Le second point qui me semble plus problématique de mon point de vue, parce que je fais pas de politique dans mon métier, je fais des analyses philosophiques, c'est ce terme de transparence sur lequel je voudrais revenir. Le problème des algorithmes sur lesquels on s'appuie pour faire des choses, c'est le manque de transparence épistémique, c'est-à-dire le fait que comme on sait pas exactement comment ça calcule, on peut plus appliquer, discerner le vrai du faux, appliquer la norme du vrai. Et en même temps, ça nous est pas du tout évident. Moi, je repense à pour boucler un peu, mais cette dame qui disait moi j'ai rien à cacher, qui disait là ça me gêne pas du tout de laisser des traces et tout. Si on lui dit ok d'accord, mais dans un an t'auras acheté un réfrigérateur qui va te ruiner à cause de ça, est-ce que t'es toujours d'accord? Elle dirait non. Donc cette transparence là à laquelle transparence de ces données à laquelle elle a tendance à adhérer, en fait, elle y souscrirait pas si on lui disait ce que ça signifie exactement.
Olivier Tesquet, pour conclure.
Cette idée de l'algocratie, on voit bien qu'on est un peu en train de tourner autour de ça. Il y a quand même cette idée qu'il y a deux choses, je pense. C'est gouverner par les données. Déjà, on se rend compte que bien souvent, c'est un abandon, une démission de la politique, c'est-à-dire que la donnée devient l'alpha et l'oméga, et on produit comme ça de la donnée qui fait office de politique publique. On n'est pas très loin aussi de tout ce qu'on a pu voir avec la présence des cabinets de conseil, McKinsey, etc. Et puis ensuite, on a un autre aspect qui est que les algorithmes permettent de mettre en œuvre des politiques publiques, mais en les mettant en œuvre de manière beaucoup plus discrète et beaucoup plus sournoise. Et là, je pense par exemple à ce que font les organismes de prestations sociales, qui mettent en œuvre des politiques de stigmatisation des plus pauvres en les automatisant.
Bien, merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Philippe Huneman, je rappelle que votre ouvrage Les sociétés du profilage vient de paraître aux éditions Payot et que vous, Olivier Tesquet, votre livre État d'urgence technologique et à la trace sont en kiosque. Merci à vous deux, c'est l'heure de retrouver Étienne Klein et sa chronique Le pourquoi du comment.
Merci.
Comment Chaplin et Einstein se sont-ils rencontrés ? À la fin de l'année 1930, Einstein, accompagné de sa femme Elsa, part aux États-Unis pour y donner une série de conférences. Le 2 décembre, le couple embarque à Anvers, à bord du Belgenland, un long vapeur noir et blanc. Hélène Ducasse, la secrétaire d'Einstein, est également du voyage. la presse nazie ne rate pas l'occasion de dénoncer le manque de patriotisme du père de la relativité, au motif qu'il a choisi un paquebot belge plutôt qu'allemand. Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'océan se montre parfois turbulent. À la date du 9 décembre 1930, Einstein écrit « Météo très agité, avec de très fortes rafales de vent. À cause des accélérations brutales qui secouent le bateau, mon poids varie d'un facteur 2 à 3. Quant à Hélène Ducasse, elle ressemble à un cadavre en vacances. » Fin de citation. Ce qui n'empêcha pas Einstein, qui avait manifestement en tête le principe dit d'équivalence par lequel l'accélération et la gravitation sont équivalentes, de travailler. À cette époque, les forces nucléaires n'étaient pas encore identifiées. Épris d'unité conceptuelle, Einstein chercha à décrire dans un formalisme unique les deux seules forces connues alors, la gravitation et l'interaction électromagnétique, au motif que les ondes électromagnétiques et la gravitation se déplacent à la même vitesse qui est celle de la lumière. Dans son cours de poétique au Collège de France, tout récemment publié, Paul Valéry a raconté sa rencontre avec Einstein à Paris en 1929. Il y fut justement question de cette démarche unificatrice. « J'ai demandé à Einstein, raconte-t-il, mais enfin, vous cherchez à exprimer une loi de la nature dans une formule qui soit indépendante du lieu, du mouvement, de l'observateur, mais qu'est-ce qui vous fait croire à l'unité de cette nature et de ses lois ?» Einstein m'a répondu « Mais c'est un acte de foi. J'ai dit, c'est tout ce que je voulais savoir. » Fin de citation. En clair, ce que cherchait Einstein, c'était une formule totalisante qui expliquerait en un seul souffle la chute des corps, l'éclat du diamant, l'instabilité du radium, la transmission de la lumière et des ondes radio, et même la composition de la matière. Avant son départ, un journaliste à l'imagination débridée lui avait fait remarquer que cela ouvrirait des perspectives alléchantes pour les agences de voyage. « Puisqu'on sait aujourd'hui réaliser, expliqua-t-il, des blindages protégeant des champs électromagnétiques, si la gravitation et l'électromagnétisme sont en fait de même nature, alors on devrait pouvoir aussi construire des blindages contre la gravitation. Des avions sans moteur pourraient traverser le ciel, des gens pourraient enjamber les fenêtres des gratte-ciel sans s'écraser au sol, et un voyage sur la Lune deviendrait théoriquement possible. » Fin de citation. Il n'est pas interdit, en effet, de rêver en roue libre. Mais revenons au voyage des Einstein en Amérique. Le 14 janvier 1931, ils dînent avec Charlie Chaplin, qu'ils avaient rencontré 5 ans plus tôt. Lors de la soirée, Elsa raconte la façon dont son mari a eu une idée décisive lors de l'élaboration de la théorie de la relativité générale, sans préciser laquelle. « Il est descendu un matin en robe de chambre, dit-elle, mais a délaissé son petit déjeuner car une idée magnifique lui avait coupé l'appétit. Il joua du piano joyeusement, en s'interrompant à plusieurs reprises pour répéter « J'ai eu une idée magnifique ». Puis il retourna dans son bureau en exigeant de ne pas être dérangé. Il y demeura pendant 2 semaines, s'y faisant servir ses repas et n'en sortant que pour une brève promenade quotidienne. Un matin, il réapparut enfin, épuisé mais heureux, et posa 2 feuilles de papier sur la table. « Voilà, dit-il, c'était, conclut Elsa, sa théorie de la relativité générale. » Le 2 février, le physicien et l'artiste se retrouvent à Los Angeles pour la sortie de Lumière de la ville. Les ampoules flash crépitent sans que l'on puisse dire lequel des deux hommes est le plus visé. Le premier est admiré parce que compris de presque personne, l'autre parce que compris de tout le monde. Ils ont beau appartenir à 2 univers différents en un sens opposé, ils semblent parfaitement s'entendre. Mais ils n'auront plus l'occasion de se revoir, sauf au théâtre, car le dramaturge Olivier Dutailly a eu la bonne idée de tirer le fil de la complicité un peu potache entre ces deux hommes jusqu'à en faire une pièce contrefactuelle. Que se serait passé si Albert et Charlie, c'est le titre de la pièce, avaient eu une relation amicale suivie? Pour le savoir, une seule adresse, le théâtre Montparnasse.
Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Natacha Demoule, Céline Lozen, Eve Etienne, Nafi Terrasse. À la réalisation, Sam Basca. À la technique aujourd'hui, Ruben Carmazine. Cette émission se podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.
Une série à la première personne et comme une enquête, Jérôme Sandelard prend la mesure de son apnée du sommeil et en profite pour explorer cet état qui ne va pas toujours de soi.
Perrine Kervran.
Hypersomnie, narcolepsie, somnambulisme, cycle de sommeil, canard qui ne dorment que d'un œil et chambre à coucher, LSD vous aide à vous mettre au lit.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.